Le sujet de ce jour est l'interprétation de la Bible.
Le deuil des âmes, l'orgueil des âmes seront bannis à tout jamais. Amis, viens vite, Dieu qui t'invite, ton flux de place en son palais. Bonne heure, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les peurs et craintes ne seront plus Dieu l'a promis.
Nos deux émissions précédentes ont traité de l'inspiration de la Bible. Étant la parole de Dieu lui-même, la Bible n'est comme aucun autre livre au monde. Elle mérite le plus grand respect de la part de ceux qui l'écoutent, aussi bien que de la part de ceux qui l'enseignent aux autres. Pour cette raison, l'apôtre Paul adressa l'exhortation suivante au jeune évangéliste Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Nous apprenons de ce texte qu'il faut dispenser droitement la parole de la vérité. Il y a donc une manière droite d'étudier et de comprendre la parole de Dieu, ainsi qu'une façon droite de l'enseigner aux autres. Faute de dispenser droitement la parole de Dieu, les hommes tombent souvent dans des erreurs et dans des interprétations fausses des Écritures. Ces interprétations sont en grande partie responsables de l'état de division dans le monde religieux. Nous ne pouvons donc pas mieux faire que de chercher le moyen pour bien comprendre les enseignements bibliques et pour les appliquer à nos besoins personnels. Pour étudier droitement la parole de Dieu, il est toujours nécessaire de nous poser certaines questions qui nous aideront à tirer de chaque texte, de chaque verset même de la Bible, des conclusions exactes et précises. Par exemple, il faut toujours se demander à l'égard de chaque passage, qui est-ce qui parle? La Bible est un témoin fidèle de tout ce qu'elle relate. La Bible rapporte non seulement les paroles de Dieu, mais aussi les paroles des hommes, voire des hommes injustes et méchants. Elle donne le récit parfois des propos de Satan. L'étudiant sérieux des Saintes Écritures voudra toujours savoir qui a prononcé les paroles d'un texte avant d'en faire usage. Il faut aussi se poser la question, à savoir, à qui parle-t-on? Croit que toute la Bible soit inspirée par Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible n'a pas été adressé directement à tous les hommes. Dieu a commandé à Noé, par exemple, de construire une arche, c'est-à-dire un grand bateau, pour sauver sa famille du déluge. Mais il est évident que cet ordre n'est pas pour les hommes aujourd'hui. Dieu appela Abraham hors de son pays natal pour aller en Canaan. Mais cet appel ne s'adresse pas aux hommes à l'heure actuelle. Ainsi, quoi qu'il y ait dans ces histoires anciennes, certains principes et leçons qui sont valables pour nos jours et que ces personnages de l'Antiquité peuvent nous servir d'exemple. Ce que Dieu leur a demandé de faire ne s'applique pas à nous. Une troisième question qu'il faut se poser à l'égard de chaque texte de la Bible est celle-ci. Pendant quelle ère cette parole ou cet ordre furent-ils prononcés? Dans l'histoire biblique, il y a trois périodes distinctes qu'il ne faut pas confondre. Il y a d'abord l'ère patriarcale, qui dura depuis la création du monde jusqu'à la mort de Christ pour les non-juifs, et pour les juifs jusqu'au moment où les Israélites sortirent du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse, donc environ 1500 ans avant la mort de Christ. Lors de cette sortie de l'Égypte commença pour la nation d'Israël l'ère mosaïque. Pendant cette période, la plus grande partie des événements décrits dans l'Ancien Testament ont eu lieu. Enfin, l'ère chrétienne, inaugurée par la mort et la résurrection du Christ, continuera jusqu'à la fin des temps. Cette dernière période est l'ère de la grâce, l'ère de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, sous laquelle nous vivons actuellement. Puisqu'il en est ainsi, les prescriptions et les ordonnances des ères précédentes ne s'adressent pas à nous. Paul nous assure que la loi mosaïque, avec ses commandements et ses prescriptions, fut clouée à la croix avec le Christ, et que nous ne sommes plus tenus de la suivre. Colossiens 2, versets 14 à 17. Les sacrifices d'animaux, les fêtes et les rites mosaïques, les sabbats et toute autre partie de cette loi sont enlevés. La nouvelle alliance de Jésus-Christ n'est entrée en vigueur qu'après sa mort, selon Hébreux 9, versets 16 et 17. Donc le salut nous est accordé uniquement selon les conditions de l'Évangile, et non selon les œuvres et les cérémonies de l'Ancien Testament. Il faut nous poser une quatrième question concernant chaque texte de la Bible, à savoir, quel en est le contexte? Faute de tenir compte du contexte, c'est-à-dire de ce qui précède et ce qui suit un passage, nous encourons le risque de nous induire en erreur dans notre interprétation. On pourrait faire dire n'importe quoi à la Bible en tirant des textes hors de leur contexte. C'est là une façon de tordre le sens des Écritures. Pierre dit à ce sujet, « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. » 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Malheureusement, il y en a pas mal à l'heure actuelle qui ne se gênent pas de se servir des textes bibliques de cette manière dans un essai pour appuyer leur thèse ou leur doctrine particulière et non biblique. Mais arracher un texte de son contexte, ce n'est qu'un prétexte, c'est-à-dire une raison apparente dont on se sert pour cacher le véritable motif d'un dessein ou d'une action. Nous ne pouvons jamais être sûrs du vrai sens d'un passage des Écritures, si ce n'est en l'étudiant dans son propre contexte, en tenant compte de ce qui le précède et de ce qui le suit. La cinquième question qu'il faut se poser est de savoir s'il y a d'autres textes dans la Bible qui traitent le même sujet. Nous devons être tout à fait disposés à accepter tout ce que la Bible enseigne. Et il faut nous garder de ne croire ou de ne suivre qu'une partie seulement de l'enseignement biblique. Parfois, un auteur inspiré, pour accentuer une des conditions du salut, ne cite pas dans un tel verset tout ce qui est nécessaire pour être sauvé, puisque les autres conditions sont sous-entendues. Nous lisons par exemple en Actes 16, verset 31, ces paroles adressées au geôlier de Philippe. Il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Il n'est pas mentionné dans ce verset la nécessité du repentir, ni du baptême. Et pourtant, en continuant la lecture du contexte, nous voyons que Paul lui annonça la parole du Seigneur. Que le geôlier fit acte de repentir en lavant les plaies de Paul et de Silas, et qu'il fut baptisé, lui et tous les siens, à cette même heure de la nuit. Acte 16, versets 32 à 33. Ainsi, le contexte nous montre que toutes ces conditions étaient nécessaires, et d'autres passages du Nouveau Testament nous prouvent qu'il en est ainsi. Il y a aussi des textes qui parlent de la repentance sans citer la croyance ou le baptême. Par exemple, nous lisons en Actes 11, verset 18, que les disciples à Jérusalem glorifiaient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie ». Devons-nous tirer la conclusion de ce verset que seule la repentance est requise pour avoir la vie, et que la croyance et le baptême n'y sont pour rien? Certainement pas, parce que ces conditions sont clairement enseignées dans d'autres passages. De même, il y a des textes qui parlent du salut par le baptême, sans mentionner ni la croyance, ni le repentir. Pierre écrit dans sa première épître, « C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, verset 21. Sommes-nous alors justifiés de conclure, en lisant ce verset, que seul le baptême est nécessaire pour le salut? Évidemment pas, car il y a d'autres passages qui soulignent la nécessité de croire et de se repentir. Ainsi, nous sommes amenés à comprendre, en tenant compte de tous les textes qui traitent le sujet du salut en Jésus-Christ, qu'il faut croire, se repentir et se faire baptiser pour être sauvé. En terminant notre étude, gardons en esprit les cinq questions que nous devons nous poser à l'égard de chaque passage de l'Écriture sainte. 1. Qui est-ce qui parle? 2. À qui parle-t-il? 3. Pendant quelle ère cette parole fut-elle prononcée? 4. Quel en est le contexte? 5. Y a-t-il d'autres enseignements dans la Bible qui traitent le même sujet? En suivant ces simples règles d'étude, nous pouvons dispenser droitement la parole de la vérité dans son application à notre vie personnelle et en l'enseignant aux autres.